Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Parmi les choses qui marquent notre société, c'est les statistiques. On nous fait des statistiques que dans tant d'années, ça va se passer telle chose, telle partie va gagner. Et souvent, ils arrivent à nous influencer à faire de la statistique une réalité. Parce que c'est que des statistiques. Mais souvent, bien, il y a les statistiques, mais il y a beaucoup de données qui peuvent changer. Et pourtant, on nous présente la statistique comme presque la réalité. Et voilà, dans tant d'années, ça va arriver telle chose. Dans ces élections, ça va arriver telle chose. Parfois, ça marche bien, souvent. Parfois, ça ne marche pas aussi bien. Parfois, un petit détail peut tout changer. Il y avait un grand professeur américain, il y a six décennies, en fait. C'est à ce moment où il était très, je pense à son homme, il s'appelait Velvul Green. Je ne me rappelle pas le nom autre, mais il s'appelait Professeur Green. Donc c'était un grand professeur qui était spécialiste de quelque chose, de comment utiliser... Il a travaillé sur le des différents domaines. Peut-être je vais retrouver tout à l'heure, je me rappelle pas exactement, mais c'était des domaines très importants au niveau médical et à autres niveaux. En même temps, c'est dans cette période. Et oui, c'était les microbes, au niveau des microbes, des différents microbes, il a fait une recherche, les microbes dans d'autres planètes, en fait, ça c'était un petit peu son sujet, bien sûr, les microbes ici. Bien, il était très connu, très, il avait une grande influence. D'ailleurs, une fois, il est arrivé à stopper quelque chose, une épidémie. On peut être le détail, je ne me rappelle pas maintenant, mais en tout cas, il était très, très connu. Et à ce moment, il a fait ses premiers pas vers le judaïsme. Et le rabbi a répondu sur ces questions, le rabbi de Lubavitch. Et une fois, il a sorti finalement un livre qui s'appelle Professeur Grün, Shalom et Bénédiction. Et là-bas, il met ses questions, surtout les réponses du rabbi sur ces questions, très souvent au niveau scientifique, très intéressant. En tout cas, il y a une fois où il a raconté au rabbi ce qu'il veut faire, ce qu'il doit faire, et ses projets. Donc, il raconte au rabbi qu'il a un séminaire qu'il doit participer, je ne me rappelle pas où, on va parler de statistiques, comment on va retrouver le judaïsme dans, il me semble, 100 ans. Et le rabbi lui dit, quelque part, c'est pas la peine, parce que dans le monde statistique, surtout quand le sujet est éloigné, c'est des choses qui peuvent changer, un donné qui peut changer tout, de jour au lendemain. Donc alors on va faire beaucoup d'efforts pour les statistiques très éloignées, et finalement, on n'est pas du tout là-dedans. C'est quelque chose carrément qui ne va jamais se réaliser, surtout quand on parle de quelque chose de très éloigné. Donc, quelque part, laisse tomber. On a une réunion autour de la synagogue du rabbi à New York, chaque année, d'une année à l'autre, ça se développe, une réunion de ce qui s'appelle les shluchim du rabbi, l'envoyé du rabbi. Bien, on se réunit, on parle de projets, etc. Et il y a ce dîner de la fin de ces quelques jours, de ce séjour. Et à la fin de ce séjour, donc c'est le moment le plus fort où il y a normalement 5000 avec quelques personnes qui aident aussi dans la communauté. Donc je me rappelle d'un discours de celui qui a dirigé ce jour. Il s'appelait Reb Moshe Kotlovsk. Il est décédé il y a un an et demi, mais il était un homme fort. Il a fait beaucoup de belles choses. Donc il a fait ce discours, était aussi magnifique. Donc il commence son discours, donc le début de ce dîner, de la fin de ce séjour. C'était dans une grande salle, c'était même pas une salle, c'était quelque chose d'énorme. Être autour de la table pour 5000 personnes, il faudrait avoir quelque chose d'exceptionnel. Donc, on a bricolé quelque chose, et il a parlé à ce moment. Et il disait qu'il y a des statistiques dans le monde, comment va être le monde juif dans tant d'années. Alors, il y a des statistiques qui se basent sur une réalité, voilà, la simulation, les gens qui ne suivent pas le judaïsme, etc. Donc, ça veut dire que c'est ça, selon les statistiques, dans quelques années, on va arriver à tel et tel chiffre, et c'était dramatique. Et là, il dit, ça c'est des statistiques, mais c'est vous, c'est nous, ça veut dire les gens qui sont assis autour de la table, c'est eux qui changent les statistiques. C'est des gens qui, il y a des gens qui font des statistiques et il y a des gens qui changent les dons des statistiques. C'est eux qui réagissent et donc ils font que les statistiques ne soient pas sains et soient carrément différentes. Et de là, on va arriver à notre paracha. Dans notre paracha, c'est la paracha Lech Lecha, la troisième paracha de la Torah. Dans cette paracha, il y a Avraham. Avraham, donc après deux parachiotes dans la Torah nous parle de la création du monde, les premières générations, les premières 10 générations entre Adam et Noach, et ensuite les déluges, et encore 10 générations entre Noach et Abraham. Et à ce moment-là, le monde n'était pas aussi magnifique que ça, le monde était perdu de la foi, il y avait des gens qui étaient idolâtres, ils croyaient aux choses, de différentes choses. Et c'était la mode de croire à ça. Et à ce moment, il y a Avraham qui est né. Et c'était la deuxième génération quand même après Noach, il est né. Et il commence en tant qu'enfant de poser des questions. Il n'est pas d'accord avec ce qui était pensé, ce qu'on a pensé à l'époque. Donc il grandit, il oppose aux idées idéologique de l'époque. Le roi, il décide de le tuer. Finalement, il se sauve, comme il est marqué. En fait, ça, c'est pas marqué dans la Torah. La Torah, d'ailleurs, elle cache, elle saute cette période. C'est très intéressant pourquoi, mais on va nous aussi sauter cette partie. Donc, il a avancé dans son connaissance de Dieu, dans la compréhension de la divinité du monde. À l'âge de 40 ans, à l'âge de 48 ans. Et finalement, il avait beaucoup de fidèles qui le suivaient, comme il le manquait. Ça, oui, il le manquait dans la Torah. En tout cas, à un moment donné, après que même son père, qui était fidèle à ce roi de l'époque, qui a essayé d'influencer ses idées sur la génération, les générations, son père, il était déçu, et donc il quitte la région qui s'appelait dans la Torah Ur Kasdim, et il vient, Ur Kasdim, c'est entre les deux fleuves, Euphrate et Tigre, c'était là-bas, donc là où Avraham il est né, il quitte la région pour aller à Canaan. Finalement, ils arrivent par Canaan, ils s'arrêtent au milieu du chemin, et là ils s'arrêtent. Pourquoi ils vont en Canaan? Alors, tout simplement, à l'époque, l'habitation était très maigre dans le monde. On était quand même quelques années après le déluge. C'était exactement, on peut dire, il me semble, c'était 200 ans après le déluge, ou un petit peu plus. Et donc, il n'y avait pas, la population n'était pas énorme. Et Noé, il a partagé la terre entre les habitants, qui étaient ses enfants. Donc, il avait trois fils mariés. Donc 6 personnes, et il a partagé entre eux la terre. Il a donné à Sem. Il a donné les parties qui, aussi une grande partie, mais parmi les parties et qui était donné, c'était les parties qui appartiennent, qu'aujourd'hui on appelle aujourd'hui la terre d'Israël. Un petit peu au-delà, ça arrivait encore plus haut, vers le Liban, etc. Donc Canaan, c'était la terre qui était, prévue pour les descendants de Shem. Et d'ailleurs, son arrière-grand-père Shem, donc le fils de Noach, vivait encore. Et il était, on trouve dans notre paracha, qu'il était le roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem. Jérusalem est composé de deux mots, Jérusalem. Dans notre paracha, on parle des deuxième mot que c'est Salem. Dans notre paracha de la semaine prochaine, on va parler de Jérusalem. Mais en tout cas, c'était Jérusalem. Sem était là-bas. Il y avait encore un petit-fils de Shem qui aussi il a marqué la génération, il s'appelait Ever, qui d'ailleurs c'est parmi les raisons pour lesquelles Abraham on l'appelle hébreu. En tout cas, Abraham, surtout son père Terach, il voit pas son avenir dans le Ur Kasdim, autour des rois, et autour des projets des rois, donc il quitte pour aller dans son pays qui était destiné pour lui, mais finalement ils arrêtent au milieu du chemin parce que le chemin était, il n'y avait pas l'autoroute à l'époque. On arrêtait, ils ont arrêté dans un endroit où apparemment ça leur plaisait, c'était Haran. Haran se trouve jusqu'à aujourd'hui, la ville de Haran existe, au village de Haran, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais en tout cas ça existe. Je connais quelqu'un qui était là-bas, qui est turc d'ailleurs, et c'est en Turquie. Et ils ont des choses pour commémorer Abraham et sa famille. Et donc ils s'arrêtent là-bas, et là ils s'installent, tout va bien au niveau matériel et aussi au niveau spirituel, parce que là Abraham commence à influencer. Il y a des gens qui s'intéressent à son idéologie, et donc d'un coup il a beaucoup de fidèles. À ce moment-là, il est bien dans Haran, matériel et spirituel. Il a un grand problème qu'il n'a pas d'enfant encore, mais en tout cas, sinon, bien, il est bien là-bas. Et un bon jour, le jour que normalement les gens vont à la retraite, et c'est là où on commence notre paracha, Dieu il dit à Abraham, pars d'ici pour aller dans le pays où je vais te montrer. Ça veut dire, pars d'ici pour aller vers l'inconnu. Dieu ne révèle pas tout de suite où est-ce qu'il va. Pourquoi ? Bien, alors Rashi nous dit, pour justement que ce soit plus méritant quand on fait les choses sans savoir, donc c'est beaucoup plus mérite. On va voir après que c'est pas seulement puisque la vie d'Abraham, ça devient un modèle pour notre vie, elle allait vers l'inconnu, c'est quelque chose qui est important dans notre vie, peut-être qu'on va revenir aujourd'hui à ça, mais en tout cas, il y a l'histoire, et il y a le message qui est éternel. Donc, dans l'histoire, Shem, Dieu, il dit à Abraham, va vers le pays où je vais te montrer, donc vers l'inconnu. Mais il y a un problème. Abraham, c'était un homme quand même qui réfléchit, il a fait des statistiques. Et selon les statistiques, là, à Hebron, il va bien. Pardon, pas à Hebron, à Haran. Il va bien. Au niveau de l'argent, c'est là où il gagne de l'argent. Il y a des gens autour de lui qui le suivent, donc certainement qu'il peut construire quelque chose. Au niveau de son nom, il devient un homme important, il a beaucoup de fidèles qui le suivent, il a changé une ville entière qui pense comme lui. Donc il avait une influence. Jusque là où il était, on s'est manqué de lui, on l'a fait beaucoup d'ennuis, et là d'un coup il est bien. Même au niveau, entre le troisième niveau, le niveau d'avoir des enfants, bien, alors la statistique dit, comme ça on peut comprendre de Rashi, que s'il va bouger, il va se fatiguer, il va aller vers l'inconnu, alors de toute façon, il donne un âge où normalement, même à l'époque d'Abraham, parce que selon la Torah, les premières générations, ils ont été beaucoup plus forts et beaucoup plus longs, après Dieu, il a changé les dons après le déluge, et les générations deviennent petit à petit comme nos générations, qu'on vit en grand maximum, en tout cas, même si que dans la Torah, c'est encore loin de ça. Abraham a vécu ça en 47 ans, qu'aujourd'hui, c'est quasi pas possible, mais en tout cas, pour leur époque, puisqu'on suit cette idée que Dieu il a changé la nature, Alors, c'était beaucoup loin et beaucoup moins que ce qu'il y avait dans les générations avant. Et j'ouvre une parenthèse parce que, au niveau scientifique, bien sûr qu'on ne peut pas adhérer à cette idée. Mais encore une fois, ça c'est parmi les choses qu'on dit que Dieu il a changé la nature. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va peut-être parler de ça. En tout cas, ça c'est clair que dans la Torah, les premières années étaient très très longues. Et après, c'est des années qui étaient proches de nous. En tout cas, Abraham, il avait 75 ans. Sa femme avait 65 ans. Ce n'était pas l'âge idéal pour avoir des enfants. Et là, d'un coup, alors s'il espère d'avoir des enfants, logiquement, il doit rester sur place. Et là, s'il va quitter, il va se fatiguer. Eux, ils vont se fatiguer. Le risque d'avoir des enfants est beaucoup moins important. Donc, alors, quelque part, dans les statistiques d'Abraham, ça ne va pas aller s'il va partir, ni au niveau de l'argent, parce que sur la route, on dépense. C'était une longue route qui a duré quelque part, peut-être plusieurs années, mais Abraham, de toute façon, ne savait pas ce qu'il attend. Et d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui nous donnent l'idée qu'Abraham n'est pas installé. Donc, il va d'un endroit à l'autre. C'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est pas comme ça qu'on devient riche. Donc, alors, au niveau statistique, au niveau de l'argent, il va pas forcément gagner plus lorsqu'il va partir. Au contraire. Au niveau des noms, là, il a beaucoup de monde qui le suit. Là-bas, on ne sait pas comment ça va se passer, surtout qu'il va passer d'un endroit à l'autre. Et au niveau des enfants, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Et pourtant, Dieu lui dit, « Va, et c'est bien pour toi. » Et Abraham, il va. Et finalement, on voit dans notre paracha qu'il finalement, il devient très riche, comme la paracha nous raconte des différents éléments. Son nom devient important, tel point qu'on l'appelle le prince de Dieu. En fait, même les nations, dans notre paracha, on voit qu'on les nomme comme les princes. Parce que finalement, après des différents événements, il devient important, un homme important. Et donc, pas seulement dans un petit village comme Haran, mais dans une région très importante, très influençable. Et à la fin de la paracha, il a des enfants. Donc, alors finalement, on voit qu'il met des statistiques dehors. En fait, pas dehors, de côté. Et finalement, il suit l'ordre de Dieu et il réussit. Au milieu de notre paracha, on trouve encore une fois quelque part qui peut ressembler à ces statistiques. On trouve qu'à un moment, il arrive à Canaan. On l'appelle Canaan, en vérité, comme on a dit tout à l'heure, c'était la terre qui appartenait aux descendants de Shem, qui était, lui-même, il était là-bas dans la région. Et pourtant, il voit que la terre était en train d'être conquérie par les Canaanites. Et donc, c'est quelque chose qui devrait le déstabiliser. Dieu, il promet. Dieu, le maître du monde, il dit, va là-bas, et là-bas tu vas être bien, tu vas trouver ta place. Et là, d'un coup, il voit que non seulement, logiquement, il ne va pas trouver sa place, le contraire. Le Canaanite, que quelque part c'était peut-être pas l'ennemi, mais en tout cas quelqu'un qui reprend de la terre de ces familles de Shem. Et à ce moment-là, Dieu l'explique, il dit, oui, c'est à tes descendants que je donne cette terre. C'est vrai que pour le moment, c'est pas le cas, mais plus tard, ça va être le cas. Alors là, il y a pas mal de choses à dire, surtout que ça se répète quelquefois dans la Torah, mais en tout cas, dans la paracha de cette paracha, qu'on trouve après qu'Abraham, il fait attention que ces bêtes ne mangent pas dans le territoire des autres, même si que Dieu, il a promis la terre, parce qu'il dit pour le moment, c'est pas moi. Hein, c'est ça qui fait la division entre lui et son neveu, Lot, qui lui, il dit, de toute façon, la terre est à toi, donc je peux... Et pour Abraham, il n'a pas d'enfant. Et donc, certainement que la promesse de Dieu, c'est pour moi, Lot. Et donc, je m'avance déjà en crédit. Puisque Dieu t'a promis la terre, donc la terre est à moi. Donc, je peux manger dans je peux donner à manger à mes animaux qui étaient très nombreux dans le champ des autres, sinon je m'en fiche, parce que de toute façon, plus tard, ça va être à nous. Et Abraham, il dit, non, mais c'est pas à nous. Le jour où ça va être à nous, ça va être à nous, pour le moment, c'est pas à nous. En tout cas, et encore les statistiques d'Abraham, et finalement, Dieu dit, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Et la troisième fois, on trouve un petit peu cette idée des statistiques, Abraham, il avance dans les jours, et pourtant, il y a, au niveau d'enfant, il n'y a rien. Sarah, elle est toujours stérile, et il n'y a rien. Et à ce moment-là, Abraham, il a l'idée que peut-être ça ne va pas se réaliser. Peut-être c'est un sujet que bien... Et à ce moment-là, Dieu, il dit, sors de tes pensées et fais-moi confiance. Et finalement, dans la paracha, on trouve qu'il réussit. Donc là, je reviens à cette idée qu'il y a des gens qui font des statistiques et il y a des gens qui avancent. Le début du judaïsme se trouve dans notre paracha. Avant, Abraham il a fait pas mal de choses, mais ça ne rentre pas dans le cadre judaïque. Ça rentre dans le cadre judaïque où on change les données. Il y a les statistiques, et ensuite il y a les gens qui travaillent, qui font, qui changent les données des choses, et là d'un coup, la situation change. Et bien sûr qu'il faut l'utiliser, on peut développer cette idée, mais puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, l'idée c'est que c'est bien, on a besoin dans notre monde des statistiques, mais on a surtout besoin de faire, de changer. Tout ce qui restait dans les statistiques, et il y a d'autres écoles qui changent les données des choses. Et dans le monde juif, on nous demande de changer les choses. Maintenant, il y a encore quelque chose. Dieu il promet à Abraham des choses, mais tant qu'Abraham ne fait pas son acte, il n'avance pas, alors la bénédiction de Dieu ne se réalise pas. Alors même quand Dieu il est tout puissant, il peut tout faire bien sûr, mais il attend à l'homme de changer ses pensées, donc penser autrement, et de faire. Comme on dit en français, il y a cette expression, « Aide-toi, Dieu t'aidera », c'est une idée tout typiquement juive. Ça veut dire « Avance, fais le nécessaire, et toi tu changes les données des choses ». Alors encore comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup à dire par rapport à ça, mais j'aimerais un petit peu aller un petit peu plus loin, dans le même domaine, un petit peu plus mystique, spirituel, dans la même donnée. Alors comme on a dit tout à l'heure, que cette paracha, elle parle du fait qu'Abraham il habitait dans tel endroit, et Dieu il dit quitte cet endroit et va vers un autre endroit, et quelque part, il va influencer le monde autour de lui grâce au fait qu'il va bouger. Mais il y a une autre idée qu'au niveau spirituel, et là, c'est un message pour nous tous. Alors, il est marqué comme ça que Dieu il dit à Abraham, Abraham c'est nous tous. Dieu il nous demande de quitter, d'aller plus loin. Donc alors ça c'est une idée qu'il n'y a pas l'âge pour changer. Normalement, habituellement dans notre monde, on change quand on a 18 ans, on change, on va ailleurs, on fait nos études, mais une fois installé, on n'est pas prêt à changer. Et là, c'est intéressant, c'est aussi un message très très fort que Dieu il demande à Abraham, à l'âge de 75 ans, change. Maintenant, dans la chassidut, on développe un petit peu plus, c'est pas changer tout simplement. Dieu il dit à Abraham, va pour toi, mais va d'où? Alors il est marqué dans la Torah, Me'artzecha ou Moladetecha ou Mibet Avicha. Me'artzecha de ton pays, Moladetecha c'est dans tes pays natal, ou Mibet Avicha de la maison de ton père. Il faut tout quitter pour aller dans le pays où je vais te montrer. Mais la chassidut, elle développe, puisqu'on dit que chaque chose dans la Torah, d'une part, c'est une histoire qui parle d'un endroit, des idées, mais d'une autre part, puisque la Torah elle est éternelle, les messages sont éternels, il faut aller plus loin. Savoir, c'est pas limité ni par le temps, ni par l'endroit. C'est une idée très large dans l'esprit. Donc alors Dieu nous demande de quitter pour aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut quitter. Alors, qu'est-ce qu'il faut quitter? Alors là, il est marqué Artsecha. Artsecha, ça veut dire, comme on a dit, ton pays. Mais le chassidut explique qu'on entend ici le mot Ratson. Il faut quitter ta volonté pour aller vers une autre volonté. Umoladetecha. Umoladetecha, c'est qualité, c'est habitudes. Il y a des gens qui ont d'habitude, alors là aussi, pour avancer, il faut changer ses habitudes. Obet Avicha, Avicha dans l'esprit kabbalistique, on dit que c'est la notion de ton père, ta mère, c'est la notion intellectuelle. On dit que la pensée, pas la pensée, l'intelligence, ça s'appelle père et mère, comme ça se développe ailleurs. Et parfois, on demande à l'homme pour avancer, changer. Changer au niveau intellectuel, parce que dans le monde juif, on nous demande toujours de changer, d'aller plus loin. Alors bien sûr qu'il faut expliquer comment aller, comment aller, mais ça c'est un message. C'est pas par hasard que cette paracha, c'est le début de notre histoire, parce que dans l'histoire juive, on nous demande toujours d'avancer, d'aller plus loin, de changer carrément, de changer pour aller plus loin, de ne pas être quelqu'un que ça y est, je bouge plus, il faut toujours bouger. Mais là aussi, il y a deux notions. Abraham quitte les lieux de son père pour aller ailleurs. C'est quoi les lieux de son père? On a deux explications qui sont opposées. Alors, je vais les dire très très court, mais sachez que c'est très intéressant et très développé. Parfois, on demande à quelqu'un, tu es un niveau très très bas, mais tu as une possibilité d'avancer. Donc, toi, tu es né dans une maison de terre qui n'était pas très intelligent au niveau des sentiments. Il n'avait pas de bons sentiments et au niveau de volonté, ce n'était pas ça. Et pourtant, tu as un potentiel de développer. Et Dieu, il dit, « Asher Areka, je vais te montrer. Je vais montrer vraiment ton qualité. » Donc là, on demande à l'homme, n'importe quel homme, qui là, on dit, sache que tu as des qualités cachées et développe-le. Pour développer, bien sûr, il faut sortir, mais il faut développer. Donc, alors, l'idée ici, c'est quelqu'un qui se trouve, il n'a pas développé ses qualités, on lui demande, va plus loin et développe tes qualités. Mais il y a une autre vision dans le même chassidut, et le rabbi les lit ensemble, c'est très intéressant, mais encore, je veux dire très court. Parfois, on dit à l'homme qu'il est très haut, au niveau très, très spirituel. De savoir descendre vers le plus bas. Parce que Dieu a créé un monde que d'un côté il est très très bas, mais d'un autre côté il a une origine très très haut. Et dans le monde juif, on sait que notre rôle c'est faire lier ciel et terre, spirituel et matériel. Donc dans cette vision, c'est le contraire. On dit Avraham qui était Avram, ça veut dire un homme très profond, très logique. De quitter ce monde logique et aller dans le monde actionnaire, ça veut dire faire descendre vers les autres. Donc, alors, quelque part, la notion d'aller plus loin, de quitter ce confort pour aller plus loin, ça va dans les deux domaines. D'un côté, on demande à l'homme, avance, tu as des potentiels, révèle tes profondeurs spirituelles, tes profondeurs intellectuelles, ce que tu n'as pas fait jusqu'à aujourd'hui. Pour ça, il faut sortir de ton habitude. Et parfois, on dit à l'homme le contraire. Tu es trop spirituel, mais il faut penser à ton entourage. Ou bien, on peut jouer avec cette idée des deux côtés, parce qu'on trouve cette notion partout. Bon, en tout cas, ça, c'est une idée très, très générale. Allez plus loin. Ne restez pas là où tu es. Donc ça, c'est une idée de notre paracha. Et pour terminer, on sait que la terre d'Israël, que Dieu l'a promis, et il dit à Abraham, fais ça, et grâce à ça, tu vas voir la terre d'Israël. Ensuite, il dit, fais ça. Donc il y a des différentes choses qu'Abraham il devrait faire, et grâce à ça, il va donner la terre d'Israël. Et pourtant, Dieu l'a promis, pourquoi Abraham il a besoin de faire. Et là, on revient aux mêmes idées, c'est que dans notre monde, et c'est comme ça que notre monde est construit, c'est que même si qu'il y a des choses qui viennent de la part de Dieu, c'est l'homme qui avance. Et ça, c'est une idée tellement forte dans notre paracha. Ça veut dire on a tout de la part de Dieu, et pourtant, si toi, tu n'avances pas, ça ne va pas se réaliser. Et parfois, on a la chance que Dieu, il fait le travail pour nous, mais ce n'est pas le but. Il y a une expression qui est menée dans le Ayom Yom, qui est plus fort. C'est lorsqu'on te donne la main et tu avances. Plus cher, c'est lorsque tu travailles tout seul. Alors, c'est vrai qu'on est dans cet esprit et dans notre paracha qui ouvre l'esprit juif, qui ouvre la vision juive, l'Ech Lecha, va plus loin. Et donc, alors, à partir de cette idée, puisqu'on est dans un monde où on nous a promis un monde mieux, on nous a promis qu'on avance, et pourtant les statistiques nous disent quelque chose d'autre. Alors encore une fois, ça veut dire que ce n'est pas la première fois, la statistique nous dit quelque chose et nous on change la statistique. L'idée de notre paracha, c'est que chacun doit faire un effort et changer les statistiques. La statistique et les statistiques, et faire un monde meilleur, un monde que même si que mon entourage n'est pas bon, il faut changer. Alors, c'est ça la différence entre la paracha de la semaine dernière, que les statistiques disaient que ce n'est pas bon, et donc Dieu il a détruit. Et dans notre paracha, la statistique disait que ce n'est pas bon, mais pourtant on arrivait à sauver. Ça, c'est notre monde aujourd'hui, le monde qu'on attend. La venue de Mashiach, le monde de paix qu'on attend, même si que les statistiques ne nous disent pas forcément de bonnes choses, mais chacun parmi nous a la possibilité et donc le devoir de changer les statistiques. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.